Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant l'évangile de Saint Jean. Nous arrivons à l'étude numéro 2 et nous allons parler un peu de quelqu'un qui était un initié et d'une autre personne qui fait partie des exclus. Chers amis, face au récit de l'initié et de l'exclu, nous nous poserons une question précise. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans le monde tel qu'il est? En effet, on ne peut pas chercher à le rendre meilleur si l'on ne comprend pas clairement ce qui pose problème. Il faut poser un diagnostic avant d'établir une ordonnance et je crois que nous trouverons quelques réponses intéressantes ici. Dans Saint Jean chapitre 3, Jésus converse avec un initié de haute moralité. Ce personnage occupe un rang de dirigeant dans l'établissement civil et religieux. Au chapitre suivant, Jésus rencontre une femme étrangère, une exclue du point de vue social, moral et religieux. Les deux passages sont bien connus de nombreux chrétiens, car les personnages y sont décrits de façon plutôt détaillée et ils rapportent des dialogues mémorables. Toutefois, il est intéressant de remarquer que dès que l'on présente ces textes pour les enseigner, on choisit généralement l'un ou l'autre, on ne les présente presque jamais ensemble. Or, je crois que c'est une erreur. À mon avis, si ces deux rencontres apparaissent l'une après l'autre dans l'Évangile, c'est que l'auteur veut qu'elles soient considérées ensemble. Ces deux personnes semblent être si différentes en surface et leur situation si dissemblable, il faut bien le dire, qu'on pourrait croire au premier coup d'œil qu'elles n'ont rien en commun. Cependant, l'évangéliste nous suggère de nous demander, en dépit de leurs différences, qu'ont-ils en commun? Cet initié et cet exclu, qu'ont-ils en commun? De fait, si eux deux ont quelque chose en commun, alors nous avons tous quelque chose en commun. Donc, examiner ces deux récits en même temps, cela nous permettra de mieux saisir ce que Jean dit à propos de l'état du monde et du rôle que nous jouons tous pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Il n'est pas possible de parler de ces rencontres sans aborder la thématique du péché. Je suis conscient que les mots « péché » et « pécheur » sont marqués par un lourd bagage culturel et je peux comprendre pourquoi certains grimacent, oh oui, et comment, lorsqu'ils les entendent dans la bouche d'un chrétien. Ils sont malheureusement souvent servis à marginaliser et à écarter ceux qui n'avaient pas la même foi. Il est donc facile de dire, non content d'être en désaccord avec moi, tu es un pécheur. On a employé le mot pour se placer soi-même de façon illusoire, il faut quand même le dire, à un niveau moral élevé et porter ainsi un jugement sur les autres jugés inférieurs. Si tu es un pécheur, ce que par implication je ne suis pas, au lieu d'avoir une véritable discussion avec toi et de vraiment essayer de répondre à tes questions, je te marginalise. Évidemment, je crois qu'une telle façon de voir le péché est erronée. Le point de vue biblique est beaucoup plus radical et beaucoup moins étriqué. On ne peut jamais employer en guise d'arme parce qu'il se retourne contre quiconque tente de le faire. Dans la perspective de la Sainte Bible, personne ne peut prétendre ne pas être pécheur. Tel est, du reste, l'enseignement de ces deux histoires. Penchons-nous d'abord sur la rencontre entre l'exclu et Jésus, selon Saint Jean chapitre 4, puisqu'elle commence par brosser un portrait du péché communément admis. Jésus traverse la Samarie avec ses disciples. On se trouve donc en dehors de la Judée. À l'approche d'une ville, ses disciples partent acheter des vivres. Lui-même reste, on peut dire, ressent tout à coup de la fatigue et même de la soif. Et à la sixième heure, ce qui correspond à midi, au moment le plus chaud de la journée, il se dirige vers un puits. Il n'a aucune façon de puiser de l'eau, car n'ayant pas de cruche. C'est alors qu'une femme arrive seule pour en puiser. Il lui dit « Donne-moi à boire ». La femme samaritaine lui dit « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et oui, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus. » Et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari, » car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es un prophète. » Saint Jean chapitre 4, versets 9 à 19. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de souligner le caractère remarquable de cette conversation. Ce qui frappe d'abord, c'est le geste radical que Jésus pose en engageant la conversation. Nous pourrions trouver cela tout naturel, mais nous aurions tort. La femme est surprise qu'il lui adresse la parole, car les Juifs et les Samaritains étaient des ennemis jurés. Des siècles auparavant, la plupart des Israélites avaient été exilés par leurs conquérants. Certains de ceux qui étaient restés s'étaient mariés avec d'autres Cananéennes et avaient formé une nouvelle tribu, c'est-à-dire les Samaritains. Ils avaient piqué des éléments au culte juif et aux religions cananéennes pour former une religion syncrétique. Or, les Juifs, les voyant donc à la fois comme inférieurs à eux du point de vue racial et comme des hérétiques, c'est la première raison pour laquelle elle est surprise que Jésus s'abaisse à lui parler. Mais plus encore, il était scandaleux pour un homme juif de parler à une femme inconnue en public. Ce n'est pas tout. Elle vient puiser de l'eau à midi. De nombreux spécialistes relèvent que les femmes le faisaient habituellement pas du tout à cette heure-là. Elles venaient tôt le matin afin qu'il ne fasse pas trop chaud, de manière à disposer l'eau pour toutes les tâches ménagères de la journée. Pourquoi donc se trouvait-elle là-bas, seule, au milieu de la journée? Oui, pourquoi? Parce qu'elle souffre d'exclusion morale. Elle est une étrangère à tout point de vue, vis-à-vis même d'un pan de la société déjà marginalisé. En adressant la parole à cette femme, Jésus franchit par conséquent de façon délibérée pratiquement toutes les grandes barrières que les êtres humains sont susceptibles d'ériger entre eux, raciales, culturelles, sexuelles et morales. Et il transgresse les conventions de l'époque, puisque en sa qualité de juif religieux, il ne devait avoir absolument aucun contact avec elle. Or, tout cela ne compte pas pour lui. Voyez-vous à quel point c'est radical. Il fait fi de toutes les catégorisations humaines afin d'établir un lien avec elle. Elle n'en revient pas, et nous devrions être aussi émerveillés qu'elle. Donc, Jésus franchit de façon délibérée, pratiquement, toutes les grandes barrières que les êtres humains sont susceptibles d'ériger entre eux. Jésus transgresse les conventions de l'époque. Il y a un deuxième élément frappant dans cette rencontre. Même s'il fait clairement preuve d'ouverture et de cordialité avec elle, Jésus n'évite pas l'affrontement. Cependant, il le fait avec douceur et subtilité. Il lui dit d'abord, « Si tu savais qui je suis, c'est à moi que tu demanderais de l'eau vive, et si tu bois de cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. » Plus jamais. De quoi peut-il bien parler? Il s'exprime, on peut dire de façon métaphorique, car l'eau vive renvoie à la vie éternelle. C'est une image que nous ne saisissons pas complètement en Occident. Presque partout, nous avons facilement accès à de l'eau potable et rares sont ceux qui savent ce que est la véritable soif. Or, en revanche, ceux qui ont vécu dans un climat aride, à proximité d'un désert, eux y comprennent ce que cela signifie. Notre corps contenant beaucoup d'eau, une soif profonde, c'est une vraie torture. Boire après avoir connu une telle sensation représente l'une des expériences les plus satisfaisantes qui soit. Que dit Jésus à cet exclu ? J'ai pour toi quelque chose qui est aussi fondamental et aussi nécessaire sur le plan spirituel que l'eau sur le plan physique. Sans cela, tu es absolument perdu. La métaphore de l'eau vive signifie plus encore. Jésus n'affirme pas seulement que c'est ce qu'il a offert, ce qu'il a offert et en somme porteur de vie. Il révèle que cela satisfait de l'intérieur. Il dit en effet, vois-tu, si tu la reçois, mon eau, elle va devenir en toi une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est une satisfaction profonde de l'âme. C'est une satisfaction et un contentement incroyable, indépendant des circonstances extérieures qu'il promet. Chers amis, qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux? Qu'est-ce qui pourrait vous procurer une vie satisfaisante? Quand je pose ces questions en général, les gens me répondent en évoquant des éléments extérieurs à eux. Pour certains, c'est un amour romantique. Pour d'autres, une carrière. Pour d'autres, l'action politique ou une cause sociale. Pour d'autres encore, l'argent et ce qu'il permet d'acquérir. Peu importe donc de quoi il s'agit précisément, quand nous disons « si j'obtiens, si je peux obtenir cela, si j'atteins ce but-là, je saurai que j'ai de la valeur, que j'ai de l'importance, je me sentirai en sécurité », nous renvoyons donc à un élément extérieur à nous. Or Jésus, il l'affirme, rien à l'extérieur de nous ne peut réellement étancher la soif profonde qui nous habite. Filons la métaphore. Nous n'avons pas besoin qu'on nous asperge d'eau en pleine figure. Nous avons besoin d'une source encore plus profonde que notre soif. Et Jésus déclare, je peux vous la donner. Je peux mettre cette source en vous. Je peux vous procurer une satisfaction totale et inimaginable au cœur même de votre être, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur, indépendamment des circonstances. Chers amis, rien à l'extérieur de nous ne peut réellement étancher la soif profonde qui nous habite. Un obstacle nous empêche de véritablement entendre les paroles de Jésus. Je crois que c'est notre incapacité de reconnaître la soif qui nous habite. Tant que nous pensons avoir la bonne chance de réaliser certaines de nos rêves, tant que nous nous croyons capables de réussir notre vide intérieur, eh bien, ce vide intérieur nous apparaît comme un stimulant et notre anxiété comme de l'espoir. Nous ignorons donc, par conséquent, presque complètement, la profondeur réelle de notre soif. Bien souvent, nous nous disons que notre insatisfaction est simplement liée à notre incapacité d'atteindre nos objectifs. Ainsi, nous pouvons vivre presque toute notre existence sans nous avouer à nous-mêmes la profondeur de notre soif spirituelle. Voilà donc pourquoi les quelques personnes qui réalisent effectivement leurs rêves ou les dépassant découvrent avec stupéfaction que ces résultats longuement attendus ne les satisfont pas du tout. Leur présence même peut aggraver le sentiment de vide intérieur. Il y a plusieurs années, le champion de tennis Boris Becker a déclaré « J'avais remporté 2 fois Wimbledon, 1 fois en tant que plus jeune joueur et j'étais devenu riche. Je possédais tous les biens matériels dont j'avais besoin. » Oui, c'est la vieille rengaine de vedettes de cinéma et de popstars qui se suicident. Vous l'avez bien entendu. Elles ont beau tout avoir, elles sont malheureuses comme des pierres. Moi, je n'avais aucune paix intérieure. On peut se dire, j'aimerais mieux avoir son problème que le mien. Ce qu'il souligne, en effet, c'est que son problème restait le même que le nôtre. Comme nous, il s'imaginait que l'argent, le sexe, la réussite et la gloire le feraient disparaître. La différence avec la plupart d'entre nous, c'est qu'il y a eu tout cela. Or, sa soif n'a pas été étanchée. Et dans un célèbre entretien, la grande star Sophia Loren a relevé qu'elle avait toutes les récompenses professionnelles, le mariage, etc. Mais que dans sa vie, il y avait un vide qu'il était impossible de combler. Tout le monde doit donc avoir une raison de vivre. Jésus affirme que si lui-même n'est pas cette raison de vivre, ce sera l'échec. Tout d'abord, nous deviendrons esclaves de notre objectif. Quoi que nous désirerons, nous nous persuadons de la nécessité de l'avoir. Sinon, notre monde s'écroulera. Cela veut dire aussi que si quelque chose menace cet objectif, eh bien nous avons peur. Nous avons peur si quelqu'un nous empêche de l'atteindre. Nous sommes fâchés si nous ne parvenons pas à l'obtenir. Nous ne nous le pardonnons pas. Toutefois, si nous réussissons à atteindre notre but, cela ne nous apporte même pas la satisfaction attendue. Permettez-moi de vous donner un exemple contemporain éloquent des affirmations de Jésus. Personne ne le montre mieux que l'écrivain américain David Foster Wallace. Il a atteint les sommets dans sa profession romancier postmoderne à succès. Il a reçu plusieurs prix. Il était connu dans le monde entier pour sa capacité de repousser les limites de la narration. Il a par exemple écrit une phrase contenant plus de 1000 mots. Quelques années avant de mourir, il a prononcé un désormais très fameux discours au Kenyon College. Il a dit, en s'adressant aux nouveaux diplômés, il a dit ceci: « Tout le monde adore quelque chose. Tout ce que nous choisissons, c'est l'objet de notre adoration. » Si vous adorez l'argent et les biens matériels, si c'est d'eux que vous tirez le sens de votre vie, vous n'en aurez jamais assez. Vous ne sentirez jamais que vous en avez assez. C'est la vérité. Si vous adorez votre corps, votre beauté et votre capacité de séduction, vous vous sentirez toujours laid. Et lorsque le temps et l'âge commenceront à se faire sentir, vous allez mourir 1 million de fois même avant que vos proches ne vous mettent enfin en terre. Adorez le pouvoir et vous finirez par vous sentir faible et épeuré, plutôt apeuré. Vous aurez donc besoin d'encore plus de pouvoir, oh oui, plus de pouvoir sur les autres pour devenir insensible à vos propres peurs. Adorez donc, pourquoi pas, votre intellect. Considérez-vous comme futé et vous finirez par vous sentir stupide dans la peau d'imposteur toujours sur le point d'être découvert. Le piège avec ces formes d'adoration, ce n'est pas qu'elles sont mauvaises ou qu'elles sont honteuses, c'est qu'elles sont inconscientes. Ce sont des réglages par défaut, on peut dire. Sans du tout être du genre religieux, David Foster Wallace avait compris que tout le monde adore quelque chose, que tout le monde croit quelque chose peut le sauver, que personne ne peut vivre sans une forme de foi. Quelques années plus tard, il a mis fin à ses jours. Les mots d'adieu de cet homme non religieux sont assez terrifiants. Il a dit « Quelque chose vous dévorera tout cru, même si vous n'emploierez jamais le mot « adoration » à ce sujet. Vous adorez et vous cherchez toujours quelque chose. » Jésus déclare « À moins que tu ne m'adores, à moins que je ne sois le centre de ta vie, à moins que tu n'essayes d'étancher ta soif spirituelle grâce à moi et non à l'aide d'autres choses, à moins que tu ne vois que la solution qu'elle doit venir de l'intérieur et non pas de l'extérieur, tout ce que tu adores finira par te lâcher. Oui, tout le monde adore quelque chose. Tout le monde croit que quelque chose peut le sauver. Personne ne peut vivre sans une forme de foi. Nous ignorons souvent, il faut bien le dire, notre soif. Parce que nous pensons réussir à réaliser nos rêves. Et lorsque nous y parvenons, il nous est facile d'ignorer Jésus. La femme qui est venue au puits est loin de telles illusions et elle se sent irrésistiblement attirée. Elle réagit immédiatement. Qu'est-ce que cette eau vive? M'en donnerais-tu? Jésus provoque alors un renversement de situation en lui demandant d'appeler son mari, obtenant en guise de réponse « Je n'ai pas de mari ». Il relève « Oui, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu en as eu 5 et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Que fait Jésus exactement? Il est certain que cette femme aux antécédents sexuels chargés et sordides correspond au portrait classique qu'on se fait d'une pécheresse. Cherche-t-il à l'humilier ? Non, pas du tout. Car si tel était le cas, il n'aurait pas renversé les barrières sociales de la respectabilité, ni engagé la conversation avec elle aussi gentiment qu'il l'a fait. Pourquoi semble-t-il changer si soudainement de sujet en passant de l'eau vive à son histoire avec les hommes? En réalité, il ne change pas de sujet. Il stimule sa réflexion. Si tu veux comprendre la nature de l'eau vive que je t'offre, tu dois d'abord comprendre comment tu l'as cherchée dans ta propre existence. Tu as tenté de t'abreuver à l'aide des hommes et cela ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Ton besoin des hommes te dévore toute crue et cela ne cessera jamais. À ce moment-là, étonné qu'il en sache tant sur elle et fasse preuve de tant de perspicacité, elle répond « Je vois que tu es un prophète ». Elle lui pose ensuite une des grandes questions philosophiques de l'époque. Nous prions ici et les Juifs prient au temple de Jérusalem. Qui a raison? En Saint Jean chapitre 4 versets 21 à 24, Jésus développe dans un remarquable paragraphe une explication que l'on pourrait résumer de la façon suivante. Le moment vient où aucun temple physique ne sera nécessaire pour communiquer avec Dieu. Bouleversé, il remarque, « Oui, quand le Messie viendra, il nous annoncera tout cela. » Jésus lâche alors la bombe. « Le Messie, c'est moi. » Saint Jean, chapitre 4, verset 26. Penchons-nous maintenant sur la rencontre que Jésus a eue juste avant, en Saint Jean chapitre 3. Il a une conversation avec un homme très, très important, même une autorité religieuse et civile. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répond « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répond, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 7. Avec vos remarques, avez-vous compris? Avez-vous remarqué que Jésus agit avec cet homme d'une façon, on peut dire, presque opposée à celle dont il traite la femme au puits? Avec elle, il fait preuve d'un certain tact, la surprenant par son ouverture d'esprit avant de la confronter lentement à son besoin spirituel. Avec lui, il se montre plus brusque, plus direct. Pourtant, Nicodème l'aborde avec courtoisie. Il dit « Maître, j'ai entendu beaucoup de belles choses à ton sujet. On dit que tu as beaucoup de sagesse et que c'est Dieu qui te l'a donnée. » Mais Jésus le confronte d'entrée de jeu à la vérité. Tu dois naître de nouveau. Son interlocuteur, qui a passé sa vie à adorer Dieu en se conformant à la tradition juive la plus stricte, doit être offensé par une affirmation aussi étrange. Naître de nouveau ? Qui sont les chrétiens nés de nouveau ? Il est courant de nos jours de penser qu'il s'agit de personnes différentes de la normale, un peu plus sensibles ou brisées par la vie, comme par exemple les toxicomanes ou les gens émotionnellement instables ayant besoin d'un revirement majeur pour se retrouver sur le droit chemin. Elles ont tellement mal agi ou sont si faibles que seule une secousse importante peut les aider. Ainsi, se pensant tolérant, oui, on peut dire, la plupart de nos contemporains diraient tout simplement que de naître de nouveau est absolument utile uniquement aux personnes qui sont particulièrement faibles, qui ont besoin de vivre une expérience spéciale, que c'est peut-être aussi pour les personnes ayant besoin d'autorité et de structure dans leur vie, qui adhèrent donc à des mouvements religieux réglementés et autoritaires. Naître de nouveau, en d'autres termes, est une bonne chose, pourquoi pas, pour certaines personnes en tout cas, si c'est ce dont elles ont besoin, qu'elle est. Le problème avec cette façon de voir les choses, c'est qu'elle est contredite par le récit biblique. Nicodème est un chef, on a dit un chef de sa communauté, il est un membre du Sanhédrin, la plus haute autorité judiciaire juive. Il est donc prospère. C'est un modèle pharisien de piété et d'intégrité. On ne saurait avoir une foi plus authentique que lui. Il n'est pas du tout du genre sensible et brisé. Par ailleurs, en appelant un jeune homme sans formation officielle, tel que Jésus, et en lui disant « Maître, Rabbi », il se montre plus humble et plus ouvert d'esprit que la plupart de ses pairs. Nicodème a par conséquent tout de la personne admirable, équilibre, succès, discipline, rigueur, rigueur morale, engagement religieux, doublé d'une grande, on peut dire, vertu et d'ouverture d'esprit. Que dit Jésus ? Il a recours à une métaphore différente de celle qu'il emploie avec l'exclu. Au lieu d'insister sur son manque de satisfaction en affirmant « Je peux te donner de l'eau vive », il met le doigt sur son autosatisfaction en déclarant « Tu dois naître de nouveau. » Qu'as-tu eu à faire pour naître ? As-tu travaillé dur pour gagner ce privilège? Ou l'as-tu obtenu grâce à une habile planification? Absolument pas. Personne n'a quoi que ce soit à faire pour naître. Aucun mérite, aucun effort, c'est un cadeau de la vie. Et il en va de même pour la nouvelle naissance. Le salut est une grâce. Il n'y a aucun effort moral qui permette de le gagner ou de le mériter. Il faut tout simplement naître de nouveau. Quelle affirmation stupéfiante pour un homme tel que Nicodème. Jésus le place au même niveau spirituel que les proxénètes et les prostituées. L'homme, on peut dire, a la belle réussite morale et spirituelle. Et le sans-abri ou le toxicomane qui traîne dans la rue sont donc, du point de vue de Dieu, tout aussi perdus l'un que l'autre. Ils ont également besoin de repartir à zéro, de naître de nouveau. Ils ont également besoin de la vie spirituelle éternelle pour ne pas être dévorés tout cru. Et cette vie doit leur être offerte comme un véritable cadeau. Comment Jésus peut-il oser dire ce genre de choses? Ce qui lui permet de le dire, c'est une compréhension plus approfondie du péché qui est, on peut dire, qui est la cause pour tous les hommes. C'est vraiment cela. Permettez-moi d'employer de nouveau ce mot avec tout le bagage culturel dont il est porteur. Donc, en ce qui concerne la femme rencontrée au puits, la plupart des gens n'ont pas de peine, oh non, à saisir pourquoi Jésus la considère comme une pécheresse ayant besoin d'être sauvée. Or, en revanche, ils ne parviennent pas bien à comprendre pourquoi ils traitent l'invité Nicodème de la même manière. Pourquoi voir en lui un pécheur ayant besoin du salut? Pourquoi dire à cet homme bon qu'il n'a en réalité rien fait qui lui permette de gagner sa place au ciel? Voici la réponse surprenante, c'est le péché qui consiste à chercher notre salut ailleurs que en Dieu, à nous mettre à la place de Dieu, à devenir, pour ainsi dire, notre propre sauveur et Seigneur. Telle est sa définition biblique qui correspond au premier des 10 commandements. Nous pouvons donc pécher en enfreignant toutes les règles morales dans notre recherche du plaisir et du bonheur, à l'instar de la femme samaritaine. Et c'est alors le sexe, l'argent ou le pouvoir qui devient une forme de salut. Mais il y a aussi une manière religieuse, oh oui, d'être notre propre sauveur et notre propre Seigneur, en agissant par exemple comme si notre belle manière de vivre et nos qualités morales obligeaient en quelque sorte Dieu à nous bénir et à répondre à nos prières conformément à nos souhaits. Ce sont alors la bonté morale et les efforts qui procurent le sentiment d'importance et de sécurité recherchés par les personnes non religieuses auprès du sexe, de l'argent et du pouvoir. Il y a donc un aspect insidieux à relever les croyants parlant constamment de faire confiance à Dieu. Toutefois, s'ils pensent que leur bonté contribue à leur salut, ils deviennent ainsi leur propre sauveur. Ils se font confiance à eux-mêmes et ils ont beau ne pas commettre d'adultère, beau de n'avoir pas volé, leur cœur se remplit peu à peu d'orgueil, de suffisance, d'insécurité, de jalousie et de dépit, à tel point qu'ils font du monde un cadre misérable pour leur entourage. Donc, en réalité, le péché consiste à chercher notre salut ailleurs que en Dieu. Par conséquent, Nicodème et la Samaritaine sont l'un comme l'autre des pécheurs ayant besoin de la grâce de Dieu. Nous le sommes tous. Nous essayons tous d'être notre propre sauveur et Seigneur, de faire en sorte que Dieu nous doive quelque chose, ou du moins de mettre toutes les chances de notre côté. Quelle que soit notre stratégie, Jésus l'assimile à un péché, car il affirme que nous avons besoin de l'eau vive et que nous devons naître de nouveau pour l'obtenir. Nous devons nous repentir, nous devons reconnaître notre besoin, demander à Dieu de nous accueillir grâce à Jésus et de nous convertir. Certains pourraient dire « Je ne me reconnais pas dans ces deux catégories. J'ai, moi, des valeurs morales élevées, sans pour autant être religieux. Peut-être Dieu existe-t-il, pourquoi pas, mais je n'en ai pas la certitude. De toute façon, je suis quelqu'un de bien et c'est tout ce qui compte. Mais, chers amis, est-ce vraiment tout ce qui compte? Vraiment? Imaginez une veuve qui élève son fils et l'envoie dans de bonnes écoles et une bonne université. Elle consent pour cela à de nombreux sacrifices, car elle dispose de moyens très limités. Elle lui enseigne également des valeurs. « Mon fils, je veux que tu mènes une existence convenable. Je veux que tu dises toujours la vérité, que tu travailles toujours dur et que tu te soucies des pauvres. » Une fois son diplôme en main, ce jeune homme, oui, il se lance dans sa carrière et il vit uniquement sa vie sans plus jamais parler à sa mère ni passer de temps à temps avec elle. Oh, évidemment, il lui envoie tout de même une carte à son anniversaire et pour Noël, mais il ne l'appelle jamais au téléphone. Et surtout, il ne lui rend jamais plus visite. Si vous lui demandiez de décrire ses liens avec sa mère, il pourrait vous répondre « Oh, je n'ai aucune relation personnelle avec elle, mais je dis toujours la vérité, je travaille dur et je me soucie des pauvres, je mène une vie convenable, c'est tout ce qui compte, n'est-ce pas? Or, comment vous réagiriez? Comment allez-vous réagir? Je ne crois pas que vous seriez satisfait d'une telle réponse, que son existence soit correcte d'un point de vue moral, comme le souhaite sa mère, cela ne suffit pas. En l'absence de relation avec elle, son comportement est condamnable parce que c'est elle, en réalité, qui lui a donné tout ce qu'il possède. Il ne lui doit pas seulement une vie de qualité, mais il lui doit amour et loyauté, me semble-t-il. Si Dieu existe, nous lui devons littéralement tout. Voyez-vous, si Dieu existe, nous lui devons beaucoup plus qu'une vie correcte d'un point de vue moral. Il mérite d'être, on peut dire, au centre de notre vie, être quelqu'un de bien, mais ne pas laisser Dieu être Dieu dans notre vie, ça, c'est être coupable du même péché que Nicodème ou la Samaritaine. C'est agir comme notre propre Sauveur et Seigneur. Or, chers amis, si Dieu existe, il mérite d'être au centre de notre vie. Quelle est la solution de ce problème? Nous devons cesser de chercher des formes de salut illusoires auprès de prétendus sauveurs. Si nous construisons toute notre existence autour de notre carrière, de notre conjoint, de notre argent ou de notre moralité, et que c'est un échec, il n'y a plus aucun espoir. Savez-vous pourquoi? Parce qu'un sauveur autre que Jésus-Christ, quel qu'il soit, n'est pas vraiment un sauveur. Si votre carrière est un échec, elle ne vous le pardonnera pas. Vous aurez pour seul résultat la haine de vous-même et la honte. Or, Jésus est le seul sauveur capable de vous satisfaire si vous restez attaché à lui et de vous pardonner si vous le décevez. Ni votre carrière ni votre moralité ne peuvent mourir pour vos péchés. D'après la fin de Saint Jean chapitre 4, la Samaritaine parle à ses connaissances. Elle leur parle de l'eau vive qu'elle a découverte. Elle déclare avoir rencontré le Messie et elle invite chacun, chacune à aller pour le rencontrer par lui-même, par elle-même. Pourquoi a-t-elle trouvé le salut? Parce que Jésus a eu soif. S'il n'avait pas eu soif, il ne serait pas allé au puits et elle n'aurait pas trouvé l'eau vive. Pourquoi Jésus a-t-il eu soif? Parce que le divin Fils de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, il s'est dépouillé de sa gloire et il est descendu dans le monde comme un simple mortel vulnérable, sujet à la fatigue et à la soif. En d'autres termes, cette femme a trouvé l'eau vive parce que Jésus-Christ a dit « J'ai soif ». Pour terminer notre étude, je dirais que ce n'est pas la dernière fois que Jésus prononce ces mots dans l'évangile de Saint Jean. Sur la croix, juste avant de mourir, il a dit « J'ai soif », Saint Jean, chapitre 19, verset 28. Et il n'évoque alors pas qu'une sensation physique. Il est en train d'éprouver la perte de la relation avec son Père, car il accepte il accepte, entendez bien, d'être puni pour nos péchés, pour mes péchés. Oui, tout cela sur la croix. Il est ainsi coupé de sa source d'eau vive. Il connaît la soif suprême, dévorante, fatale et éternelle à côté de laquelle la pire mort par déshydratation n'est qu'une rigolade. On peut parler d'un fait à la fois paradoxal et surprenant. C'est parce que Jésus-Christ a éprouvé une soif d'ordre cosmique sur la croix que vous et moi pouvons apaiser notre soif spirituelle. C'est parce qu'il est mort que nous pouvons naître de nouveau. Et il a fait de son plein gré prendre conscience de ce qu'il a fait à des raisons pour lesquelles il l'a fait. Éloigne donc notre cœur des éléments qui nous asservissent et qui nous incitent à nous tourner vers lui pour enfin l'adorer. Et c'est cela l'évangile. Et il est identique pour les sceptiques, pour les croyants, pour les initiés et pour les exclus et de tous les autres. Amen. Chers amis, nous allons terminer par la prière. Ô notre roi, qui est maintenant dans le pays éloigné, d'où tu reviendras un jour pour la consolation et la joie de ceux qui auront aimé ton avènement et pour la confusion de ceux qui t'auront repoussé en disant « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Prépare-nous pour ce jour et pour cette heure que nul ne connaît. Fais-nous la grâce, oui, de vivre constamment dans l'attente de ta venue, comme des vierges sages, ayant nos reins sains et nos lampes allumées, de travailler comme des serviteurs fidèles que le Maître trouvera vaillants quand il arrivera. Quelle force de vie chrétienne et de sanctification nous puiserions dans cette pensée de ton retour au notre Seigneur, si nous pouvions la réaliser toujours, combien elle nous exciterait à une sainte activité et à une tendre et fervente adoration. Prépare-nous pour ta rencontre, Seigneur. Apprends-nous à discerner les signes des temps et mets en nous la foi et l'ardeur de tes premiers disciples, afin que nous conduisons comme étant bourgeois des cieux, d'où nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera tout notre corps vil pour le rendre absolument conforme à son corps glorieux. Oui, donne-nous de désirer ton avènement au notre Sauveur et de te dire du fond de notre âme, viens, viens bientôt. Amen. Amen. Chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est le plus profond désir de mon cœur. Allez en paix. Que Dieu vous bénisse. À demain matin, Dieu voulant.